Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
L'apocalypse est notre chance. 9e épisode.
La mort de Neil Frégo nous avait tous bouleversés à l'université. Du côté de Bruno Kouaranski, ce décès signifiait aussi qu'il fallait accélérer les choses.
Nous savions tous ici que notre engagement comportait des risques. À quoi vous attendiez-vous ?
Pas à mourir.
Luc et Neil avaient compris que c'était envisageable et l'avaient admis. Maintenant, ceux qui trouvent ça insupportable peuvent s'en aller.
Dans sa voiture, Christine Colla recevait le coup de téléphone qu'elle attendait depuis la mort de Neil Frégo.
Allô ?
Quoi ?
Ah, enfin !
Navré, chère Christine. J'étais en voyage avec la présidence. J'ai appris pour la mort du professeur Frégo. Toutes mes condoléances.
Arrêtez votre cirque, vous voulez bien ? Je ne me fais aucune illusion sur ce qui lui est arrivé.
Je vous demande pardon.
Neil Frégo était proche de Luc. Ne m'obligez pas à formuler les choses plus précisément.
Je comprends votre émoi, Christine, mais vous vous égarez.
Arrêtez ça ! Je suis prête à coopérer, vous m'entendez ? Mais en échange, vous n'intervenez plus dans mon université. Est-ce que c'est bien clair ? Encore un incident de ce genre, et je vais voir la presse.
Ne dites pas de bêtises. Les dommages seraient considérables, y compris pour vous.
Et voir mes professeurs mourir un par un, vous pensez que ce n'est rien ? Mentir à mon mari, à mes collègues, vous pensez que ce n'est rien ?
Il vaut mieux que nous mettions fin à cette conversation.
Oh.
Appelez-moi quand vous serez calmé.
Je vais devenir cinglé, voilà ce qui va se passer. Avance, connard !
J'attendais Christine Colla dans son bureau. J'étais à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait me tomber dessus.
Bonjour.
Bonjour Laura, je vous prie d'excuser mon retard.
Aucun souci, je suis arrivée il y a quelques minutes.
Vous auriez dû vous servir un café, je vous en fais un ?
Oui, je vous remercie.
J'ai terminé de lire vos pages hier soir. Vous m'avez maintenue éveillée fort tard.
Vous avez déjà tout lu ?
Absolument. Et je dois vous dire que je suis très positivement impressionnée. J'ai particulièrement aimé les développements sur la théologie apophatique des agences de notation.
Ah, ça me rassure beaucoup parce que justement, dans cette partie, je n'étais pas sûre que les éléments empiriques soient décrits avec assez de précision.
Si, si, c'est très précis.
Et la sous-partie sur les formes d'iconolâtrie propres au marché boursier ?
Elle est très bien aussi.
Vous voyez de quelle partie je veux parler ? J'ai laissé les deux sous-sous-parties pour que vous me disiez laquelle vous semblait la plus pertinente.
Attendez, attendez, on entrera dans les détails plus tard. Aujourd'hui, je voulais savoir où vous en étiez de la rédaction de la suite.
Ça avance, mais pour tout vous dire, c'est compliqué depuis la mort de Luc. J'ai encore du mal à me reprendre sur la thèse.
Écoutez, votre travail est quasiment abouti et il est de qualité. Je suis sûre de pouvoir convaincre Berger d'être l'un de vos rapporteurs. On devrait fixer maintenant une date de rendu. Hmm ? Alors, je vous propose de me rendre le manuscrit complet dans 3 semaines, à compter d'aujourd'hui.
3 semaines ? Mais c'est impossible.
Pas si vous vous y mettez sérieusement.
Je peux pas, j'ai encore des sections à voir. Un chapitre pas fini, l'intro, la conclusion. Toutes les notes à finaliser, la bibliographie, j'ai besoin de plusieurs mois.
Tous les doctorants disent ça. 3 semaines, ça serait très bien. Vous m'excusez, j'ai un rendez-vous téléphonique qui m'attend.
Pourquoi vous me faites ça ? Qu'est-ce que vous avez contre moi ?
Refermez la porte derrière vous, je vous prie.
J'étais paniquée par l'entrevue avec Colla. Je n'ai pas entendu Vincent courir dans le couloir pour me rattraper.
Laura,
qu'est-ce que tu veux ?
Il faut qu'on parle. On ne peut pas rester comme ça.
Je vais t'expliquer pourquoi je suis allé voir les flics. Si tu veux bien m'expliquer.
C'est pas le moment, Vincent, je sors de Chicola.
Quoi ? Elle a lu tes chapitres ? Ça lui va pas ?
Tu parles, elle les a lus en diagonale. Elle savait à peine de quoi je parlais quand je lui ai posé des questions. Mais elle veut que je rentre dans 3 semaines.
Que tu rentres quoi ? Les derniers chapitres ?
La thèse, Vincent. Elle veut que je rende ma thèse dans 3 semaines.
Elle est folle, qu'est-ce qu'il lui...
Depuis la mort de Luc, elle me harcèle. Les archives de Luc. Elle a eu que ça en tête. Et maintenant, ma thèse.
Ça n'a rien à voir.
Dans 3 semaines. Tu réalises? Elle fout en l'air 6 années de boulot, 6 années de recherche.
Désolé, Laure. On va trouver une solution.
Encore assommée par l'entrevue catastrophique avec Christine Colla, je faisais cours dans un état second, une fois de plus.
Bonjour à tous. Je reprends notre chapitre 4, section 3. Non, section 2, excusez-moi. Je vous disais que dans les années 1980, l'articulation entre sphère domestique et sphère professionnelle a été étudiée plus systématiquement, notamment par Daniel... Daniel Kergoat.
Je le connais, c'est pas du genre à sécher. Surtout ce cours-là, si tu vois ce que je veux dire.
Il est tombé, il a pas dû se réveiller, c'est tout. Ou alors il est allé au ciné. Peut-être en train de battre des hobbits avec des lunettes 3D.
Il a pas le fric pour se payer un ciné. Il est dans la merde en ce moment.
Qu'est-ce qu'il a ?
Des galères d'appart.
Grosse ?
Ouais, franchement, on peut dire que c'est des grosses galères.
Je vous ennuie ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler.
Pardon, je suis désolée, madame.
Je vous ai appelé 2 fois de l'estrade et vous ne m'avez même pas entendue.
C'est vrai, je suis désolée. Je m'inquiétais pour Willy et j'ai perdu le fil.
Il est où, celui-là ?
Justement, je sais pas. Il y avait normalement un plan pour dormir quelque part, mais j'ai pas vu ce matin. D'habitude, on se retrouve à la machine à café.
Bon, je vais reprendre le cours, vous m'envoyez un mail dès que vous avez de ses nouvelles, d'accord ?
Je suis sûre qu'il m'a pipoté et qu'il s'est encore fourré dans un plan foire.
L'impossibilité du travail domestique. Qu'entend-on par là ? De quel travail parle-t-on ? Un travail invisible par qui ?
Vincent est arrivé dans le bureau de Christine Colla avec l'idée qu'il allait pouvoir me sortir d'affaire.
Ah, voilà mon docteur préféré.
Bonjour, chère directrice.
Ex-directrice.
Tu seras toujours ma directrice, Christine.
Malin. Comment vas-tu ?
Névrosé mais bien nourri, comme tous les héritiers de mon espèce.
Tu voulais quelque chose ?
Je viens te parler de Laura.
Laura Vanetti ? Je l'ai vue tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe encore ?
Je l'ai croisée, elle m'a parlé de la date que tu lui as fixée. Elle est complètement paniquée.
Et tu viens négocier un délai pour elle ? Elle est sous tutelle ?
Te voilà bien irritable. Je voulais en discuter avec toi, oui. Je comprends pas pourquoi tu la mets sous pression comme ça. Tu sais très bien que 3 semaines, vu là où elle en est, c'est de la folie.
Mais non, tu sais bien comment sont les doctorants. Si on les laisse faire, ils n'en finissent jamais.
Je sais, mais là, c'est différent. Elle n'est tout simplement pas en état.
La mort de Luc Payron nous a tous affectés, mais il faut qu'elle en sorte. Se plonger dans sa thèse, c'est le mieux qu'elle puisse faire en ce moment.
Non. Écoute, je suis pas sûr qu'elle voudrait que je sois ici en train de parler d'elle comme ça, mais crois-moi, elle ne peut pas. Ce délai est intenable. Tu veux bien réfléchir à une deadline plus raisonnable ?
Changeons de sujet. Tu as lu la tribune de Benoît Laporte dans Le Monde ? Il y a du culot.
Christine, t'as écouté ce que je viens de te dire ou pas ?
Bruno Kwaranski et Agnès Wilms aimaient décidément se retrouver dans les squares.
Les mères de famille vont finir par se demander ce qu'on fout à traîner ici sans enfants.
Quand elles en seront là, ce sera le cadet de nos soucis.
On se fait un point rapide sur les leurs, on en est où ?
On pourra maintenir des présences virtuelles pour quelques-uns, mais pas pour tous. Je peux agiter des IP à distance, ça c'est pas un souci, mais les téléphones c'est un autre problème.
On ne peut pas les éteindre tout simplement ?
Non ! Je sais que pour quelqu'un ayant grandi avant même les consoles Atari, c'est difficile à saisir, mais faites-moi confiance là-dessus, ok ?
Ça va. Qu'est-ce que ça implique du coup ?
Il faut que vous trouviez un vrai alibi pour les membres les plus importants.
C'est-à-dire ?
À un moment, on va se poser la question d'où étaient ces gens au moment M. Si on découvre qu'ils étaient au même endroit, il faut qu'ils aient eu une bonne raison, une raison crédible. Et sans rapport avec ce qui nous occupe.
Un colloque, par exemple.
Quelque chose comme ça. Vous avez un lieu ?
Le labo loue un château à l'année à Blainville, je vais le réserver.
Nickel. Et profitez-en bien. Les châteaux, après, ça sera terminé.
Vous êtes drôle sous vos airs pas drôles, en fait ?
Et vous ? Y a quoi sous vos airs de despote ?
J'essayais de corriger mes copies de partiel au café en face de la fac. Vu que j'étais censée finir ma thèse en urgence... Je pouvais plus vraiment traîner sur le reste.
Je peux m'asseoir ?
Mais c'est pas vrai, tu me suis partout ou quoi ?
Je suis allé voir Christine Collat.
T'es malade ou quoi? Les flics, ça te suffisait pas? J'ai pas besoin que tu t'occupes de moi, Vincent. Tu piges ou pas?
T'excites pas comme ça. Ça n'a rien donné de toute façon. Elle est persuadée que c'est une bonne chose de te faire accélérer.
Ben voyons. Tu crois que je délire, que je suis parano? Les profs tombent comme des mouches dans cette fac. J'ai été agressée, on s'est fait voler les documents de Luc. Maintenant, Collat essaie de faire foirer ma thèse, mais tout est normal.
Tu vois un rapport entre des choses qui n'en manquent pas, c'est tout. Là, il s'agit de ta thèse, pas des glauqueries de Luc ou des gens que tu as visiblement emmerdés en fouillant. Christine a envie que tu termines, c'est son job de directrice.
Tu vois pas le rôle qu'elle joue depuis le début dans tout ça?
J'aime pas que tu parles comme ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Depuis le début, dans tout ça. Mais tout ça quoi? Tu vois un système derrière tout ce qui t'est arrivé depuis la mort de Luc. Ça me gonfle d'avoir à te dire ça, mais tu dérailles, Laura.
Laisse-moi corriger mes copies, j'ai une thèse à finir après. Tu m'entends? Casse-toi maintenant, Vincent.
Christine Collat essayait de contrôler les conséquences de la mort de Nel Frégo avec la chargée de communication de l'université.
Ça va être la curée dans les hebdos. J'ai déjà eu vent de 3 longs papiers sur la mort de Nel.
Ils vont raconter sa vie? C'est pas passionnant.
Non, mais ils vont pas s'arrêter là. On peut être sûr que l'angle va être comment l'état de nos universités pousse des enseignants au suicide. À la mode France Télécom, un peu.
Le problème, c'est que c'est vrai. Et encore, les journalistes restent à distance et n'ont pas trop l'idée de venir voir les locaux.
Encore heureux.
Je crains le jour où un reporter du Parisien prendra les toilettes de l'UFR 4 en photo. Ou se mettra à établir le ratio étudiant-chaise dans une salle de télé.
Entre nous, vous croyez vraiment que les deux suicides sont liés aux conditions de travail ici? Non, j'ai un peu de mal à y croire. D'autant que les professeurs sont loin d'être les moins bien lotis.
Dans tous les cas, ce n'est pas bon pour nous, cette publicité. Surtout au moment où c'est le bras de fer sur la moindre ligne de crédit. Je n'ai pas envie qu'on nous propose une mise sous tutelle administrative.
Ben on peut toujours essayer de leur donner autre chose à se mettre sous la dent.
Ben oui! Cette université, ce ne sont pas seulement des toilettes insalubres quand même. On ne pourrait pas se saisir de l'occasion pour les faire parler de nous en bien, justement?
Oui.
Les parcours pluridisciplinaires, les échanges Erasmus, la qualité des masters, les publications et les prix de nos chercheurs, l'insertion professionnelle de nos docteurs, les associations et manifestations étudiantes en tout genre, les trophées sportifs de l'AS, il y en a pour tous les goûts. Vous devriez bien pouvoir vendre ça.
Oui, mais je vais faire mon maximum.
Madame la présidente, excusez-moi, il n'y a personne.
Oui, Patricia a dû partir, je suis en rendez-vous. Vous aviez quelque chose d'urgent à me dire?
Oui, j'ai laissé une dizaine de messages sur la boîte de Patricia. J'ai 7 étudiants enfermés au poste de sécurité depuis hier
soir. Comment ça, enfermés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Quoi? Ils dormaient dans le gymnase. Je crois que vous devriez venir voir.
Les squatteurs, maintenant, il ne manquait plus que ça. Allons-y. Allez, excusez-moi, on se reparle plus tard.
D'accord, à plus tard.
Christine était furieuse. À la place du chargé de sécurité, je n'en aurais pas mené large.
Ça faisait un moment que je me doutais qu'il y avait un problème.
Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé plus tôt?
J'attendais d'être sûr. Ils sont des malins, les gamins. Pas un papier, pas un mégot, rien. Hier soir, je me suis dit, maintenant, il n'y a plus qu'une solution, il faut planquer.
On est sûr que ce sont des étudiants? Ils sont inscrits?
Affirmatif. Ils se sont tous défendus en sortant leur carte. Comme si... ça leur donnait le droit de dormir dans les locaux. Mais je vous jure, maintenant, ils ont un sécurité.
Vous n'aviez pas le droit de les garder toute la nuit comme ça? Si jamais il y en a un qui porte plainte.
Il n'y a plus que ça. Certains dorment là depuis la rentrée et il faudrait les relâcher.
On n'est pas la police, monsieur Daviel.
Mais si j'avais une équipe encore, mais tout seul face à 7 étudiants, vous vouliez que je fasse quoi?
Bon, il faut que je sache quoi faire avant d'entrer. Évidemment, c'est grave.
Très grave.
Oui, bah ça va. Ça mériterait l'exclusion, mais d'un autre côté, si l'affaire s'ébruite en ce moment, ça va écorner encore un peu plus l'image de l'université. C'est vraiment pas le moment. On va essayer de rester discret.
Il faut leur faire peur.
Exactement. Menace de conseil de discipline et tout le toutim. Et officieusement, on va appeler le Crous pour qu'il nous l'éloge dès que possible sur le contingent exceptionnel.
Pardon? Ils dorment gratuitement et se douchent aux frais de l'université. Et pour les récompenser, on leur trouve une chambre? Excusez-moi, mais du point de vue de la sécurité, je ne comprends pas...
Ça a dû déjà vous arriver de ne pas comprendre, monsieur Daviel. Vous vous en remettrez?
Au poste de sécurité, Willy et sa camarade attendaient l'arrivée de Christine.
Madame, on est enfermé ici depuis hier soir, il est fou.
Silence.
Ce type.
Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, je dirige cette université qui, comme son nom l'indique, n'est ni un bed and breakfast, ni une auberge de jeunesse. Vous êtes censé y étudier, et y étudier seulement. Votre comportement est inadmissible et il sera sévèrement sanctionné. Je vous préviens que vous allez tous très vite passer devant le conseil de discipline.
Oh non, pas le conseil de discipline. On a dormi là qu'une nuit.
C'est pas vrai. Lui, là, il m'a dit que ça durait depuis septembre.
C'est vrai ? Pourquoi tu lui as dit ? T'es con, quoi ?
Et vous le gardez-moi, papa.
En attendant de recevoir votre convocation, je vous interdis de remettre les pieds dans cette université. Passez l'heure du dernier TD.
Même à la Bibli ? Et on va travailler où ?
Vous vous débrouillez !
Mais c'est pas juste, on n'a rien abîmé ! C'est pas notre faute s'il y a une pénurie de logements étudiants !
Oh, pénurie ! Mais on connaît des mots savants, monsieur... Monsieur comment ?
Durand. Nasser. Willy Nasser.
Eh, vous avez poussé à Guantanamo, non, avant de travailler ici ?
Dehors ! Allez, tous ! Allez, oust !
Mais dehors, tu comprends pas ! Prends tes affaires !
Dépêchez-vous !
Allez, avancez ! Toi, t'as rien à faire de ta vie.
Vincent déjeunait avec Alex, son vieux pote. Le genre grand dégingandé torturé. Le genre psy aussi.
Ça tourne à la consultation, là, non ? Tu sais que j'aimerais bien déjeuner avec toi sans avoir l'impression de bosser en même temps.
Désolé. Tu sais bien que t'es le seul à qui je peux en parler comme ça.
Écoute. Elle a dû affronter la mort violente d'une figure quasi paternelle. Un suicide, en plus. Elle commence à dérailler un peu, et là-dessus... Un deuxième suicide, d'une prof qu'elle connaît. Alors si elle pense que c'est un meurtre, alors ça peut valoir pour le premier mort aussi. Ce qui a l'avantage psychique de déplacer la question du pourquoi à celle du qui.
Ça me rend dingue de l'avoir comme ça.
Il y a toujours quelque chose chez elle qui prend dingue.
Non, jusqu'à la mort de Luc, c'était nickel.
Platonique, c'est ce que t'appelles nickel ?
Y a rien de cet ordre-là. Depuis le temps. S'il y avait dû y avoir quoi que ce soit.
Si t'étais sur mon divan, je sourirais en coin derrière ton dos. Allez, parle-moi du Costa Rica plutôt, on s'est pas revu depuis. T'as vu des tortues pondre sur la plage ?
Pas du tout.
Ah, dommage. Oh, ce serait mon trip de voir des tortues pondre sur la plage.
J'étais encore en train de me débattre avec un Vélib devant la fac. Quand Willy m'est tombé dessus.
Ah, vous voilà, vous. Qu'est-ce qui se passe ? Sabine était au sang coup pour vous ce matin ?
Sabine s'inquiète toujours pour moi.
Avoir votre tête, y a de quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ?
Rien. Je suis crevé, c'est tout.
Sérieusement ?
Non, j'ai des problèmes, ça arrive.
Toujours vos problèmes de logement ?
On a dormi dans le gymnase avec quelques étudiants et le type de la sécurité nous a gaulés. On a tous passé en conseil de discipline.
C'est pas vrai, Willy ! Mais qu'est-ce qui vous a pris ?
J'ai plus d'appart, j'ai pas le fric pour payer l'hôtel. J'ai essayé dehors, mais c'est pas possible. Moi, je voudrais étudier, c'est tout. Je sais pas ce que je dois faire. On va peut-être monter dans la soute d'un avion à retourner chez maman.
Arrêtez vos bêtises. Bon, pour commencer, vous avez besoin de vous reposer.
Je vous ferai des blagues bientôt, promis. Mais là, je voulais juste vous dire que pour le moment, je savais pas trop si j'arriverais à venir en cours les prochains jours. D'abord que je m'occupe de tout ça.
Vous allez venir chez moi. On va discuter tranquillement et réfléchir à une solution.
Chez vous ? Mais attendez, la vie se retourne complètement. Qui que tu sois là-haut, t'as entendu mes prières, que dis-je ? Mes implorations !
Je vous retrouve.
Au fait, vous avez quelqu'un chez vous ? Je veux dire, un chat, ça va, je suis pas allergique. Mais j'ai un certificat, les fiancés, je peux pas. Je risque un œdème.
Pas de fiancé, mais un colocataire avec qui je suis un peu en froid en ce moment.
Je vais réchauffer l'ambiance, vous allez voir.
À la maison, entre Willy et Vincent, le courant ne passait pas.
Je connais rien en thèse, mais c'est vrai que 3 semaines, ça a l'air chaud. Je peux vous aider pour votre biblio si vous voulez. Je ferai ça avec minutie et célérité.
Minutie, célérité ? Dis donc.
Vincent !
C'est vrai que vous êtes désagréable. Je comprends que vous soyez en froid.
Ah, parce qu'on est en froid ?
Willy, les toilettes sont au bout du couloir à gauche.
Ah, mais merci, ça va, je peux en venir.
Willy !
Ah, ça y est, j'ai compris, je vais aller méditer un peu là-bas.
Voilà. Mais tu pourrais au moins essayer d'être poli.
Un étudiant ici. Tu déconnes complètement, la Laura.
Il est à la rue, tu veux que je fasse quoi ?
Tout sauf ça. Si ça se sait, tu peux être gris dans toute l'université en moins de 2, tu le sais très bien.
Je couche pas avec lui.
Ah, tu diras ça à Paul Varley. Lui non plus, il couchait pas avec sa thésarde, il la mettait juste à l'abri de sa famille de tarés. Tu te souviens de ce qui lui est arrivé ?
C'est juste pour un soir.
L'Apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer. 9e épisode. Avec Tiffaine Rabot-Fournier, Guillaume Marquet, Slimane Yafsa, Hélène Alexandridis, Christina Crévillienne, Benoît Guibert, Garance Clavel, Flore Bablet, Laurent Lederer, Chamim Ahmed, Jean-Claude Durand, Valérie Lecourt, Samuel Charles, Cécile Arnaud, Philippe Pierrard, Islam Arifoul, Bruno Abraham Kremer. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière et Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Debagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Benjamin Habitant.
Extrait du journal de Luc.
12 octobre. En voyant Bruno venir vers moi dans le couloir aujourd'hui, je me suis dit qu'il était beau. Le temps est son ami, qui lui donne quelque chose d'épais et de gracieux, en même temps quelque chose de plus subtil, de moins évident que lorsqu'il était étudiant. Déjà à l'époque, je le trouvais beau et arrogant. Il était les deux. À côté de lui, j'avais le sentiment d'avoir un égo rachitique et un corps transparent. Je me souviens d'avoir été jaloux, furieux même contre Bruno, en imaginant qu'il plaisait à Irène. Je me souviens d'avoir réfréné avec peine l'idée de lui casser la gueule tandis que nous remontions côte à côte le boulevard Beaumarchais lors des manifestations contre la loi Devaquet. Je me souviens de son intervention lors du colloque de Cerisy, sens de la justice, sens critique, son pouvoir de conviction, sa rigueur. J'avais le sentiment, tandis qu'il parlait, de voir un château se construire sous mes yeux, d'y entrer, de pouvoir en apprécier chaque élément d'architecture, chaque pièce, et d'être en même temps en sympathie avec l'édifice tout entier et chacune de ses pierres. Bruno nous offrait une vision à 360 degrés sur une pensée en plein mouvement créatif. La nuit qui a suivi, nous avons eu une discussion passionnée, assis sur l'herbe mouillée. C'est à ce moment, sans que nous sachions sans doute qu'est né notre projet. Je me souviens de nos traversées noctambules de Paris, de nos discussions enflammées à Bruxelles, Londres, Berlin, Madrid, Turin. Je me souviens d'avoir haï Bruno lorsque Mathilde m'a quitté pour s'installer avec lui, en fin de compte pour quelques semaines. Passé cet épisode, je l'ai aimé de nouveau. Je me souviens que Bruno a toujours été mon ami, au sens où une amitié s'éprouve et où s'éprouvant, se vivant, elle échappe au jugement. Je me souviens m'être dit qu'Arnaud Razen était un ami d'une autre espèce. Nous étions côte à côte lors de l'enterrement de Pierre Bourdieu. Je me souviens que Nel portait un manteau blanc. Un manteau blanc, des bottes noires et un chapeau qui lui donnait l'air de s'être échappé d'un film. Je me souviens que c'était en janvier. Je me souviens qu'il pleuvait, mais je crois toujours qu'il pleut les jours d'enterrement. Je me souviens de la confusion d'Arnaud lorsque je l'interrogeais avant qu'il rejoigne le groupe. À la fin, il a cité Aristote. « Oh, mes amis, il n'y a pas d'amis. » Je ne pouvais pas à ce moment lui dire que, derrière cette adresse, on pouvait lire aussi la promesse d'une démocratie. Je m'étais promis d'en rediscuter avec lui. Je ne l'ai pas fait, mais Arnaud et moi avons commencé à jouer aux échecs ensemble. Nos combats silencieux nous ont rapprochés. Arnaud a toujours un peu peur de ce que nous sommes en train de construire, mais il aime trop la poésie pour ne pas y participer. J'ai lu récemment que selon Olaf Hackstein, le radical indo-européen du verbe « aimer » serait « âme », qui signifie « prendre ». Prendre pour épouse, prendre pour ami. C'est un saisissement et parfois un rapt. Je me souviens d'avoir pris Gremser pour ami de cette façon. Je me souviens d'avoir assumé cette amitié subite, politiquement intéressée, et je suis certain que Gremser l'assume aussi. Je me souviens m'être cru longtemps l'ami de Nel. Je l'ai vue la première fois à Beaubourg. Au lieu d'écouter ce qu'elle était en train de dire, j'écoutais sa voix. Je me souviens d'avoir abordé Nel en énonçant que nous devions devenir amis, que c'était obligatoire. Elle a ri, elle a dit « Très bien, faisons cela ». Nous avons pris notre premier café à l'angle de la rue du Renard. Elle a proposé que nous intervenions ensemble lors d'un colloque. Elle avait lu la plupart des textes que j'avais publiés. Une simple conscience professionnelle, m'a-t-elle dit. Je l'ai cru. J'ai défini ce jour-là notre amitié comme une amitié professionnelle. J'ignore pourquoi j'ai si longtemps voulu m'en tenir à cette version.